Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous accompagner chaque samedi matin dans Nous voilà bien et de bien commencer le week-end ensemble. Vous rendre la vie plus simple et plus douce avec plein de conseils, d'infos et de recettes toujours plus gourmandes, c'est notre mission et nous l'acceptons. 9h15 à 10h sur RTL. Place au sommaire. À financer nos séjours et profiter de nos congés. Comment fonctionnent les chèques vacances et sont-ils vraiment avantageux ? Alain Schmitt, directeur général de l'Agence nationale pour les chèques vacances, nous dit tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Vous avez envie de fleurir votre rebord de fenêtre, votre balcon ou votre terrasse tout l'été, mais vous pensez vous y prendre un petit peu trop tard ? Eh bien, que nenni ! Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, vous aide à végétaliser vos espaces extérieurs. Voilà un fruit d'été au succès fou qui ne prendra jamais la grosse tête. Comment préparer le melon ? Sonia Esguignan, cuisinière, auteure et journaliste, nous met d'ores et déjà l'eau à la bouche.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi je n'ai pas changé d'année.
Voilà le petit cadeau du samedi matin. Vous aurez cette chanson-là de David et Jonathan toute la journée dans la tête. Bienvenue sur RTL. Bonjour Alain Schmitt.
Bonjour.
Ben voilà, c'est un petit cadeau qu'on voulait vous faire. David et Jonathan, est-ce que tu viens pour les vacances ? Sympa, non ?
Très.
Vous êtes directeur général de l'Agence nationale pour les chèques vacances. Désolé Alain Schmitt, c'était peut-être pas un cadeau. Dites-moi, c'est quoi un chèque vacances ? À quoi ça sert ?
Alors, un chèque vacances, c'est une solution de paiement qui sert à acheter des prestations diverses et variées dans le domaine des vacances et des loisirs.
D'accord.
Donc ça ressemble physiquement en fait à une sorte de billet de banque ou une sorte de chèque. Voilà.
Alors vous dites différentes prestations, c'est-à-dire ?
Alors on peut acheter des prestations par exemple d'hébergement, également des prestations de transport et
ouais.
de voyage, des prestations de restauration et des prestations de loisirs et de culture.
Mais alors qui peut bénéficier des chèques vacances ?
Alors ceux qui bénéficient du chèque vacances, ce sont les salariés en fait du secteur privé, les agents et les retraités des trois fonctions publiques, et également les travailleurs indépendants et les chefs des petites entreprises. Toutes ces personnes peuvent bénéficier du chèque vacances.
Comment est-ce qu'on les obtient, ces chèques vacances ?
Alors, on les obtient auprès de ceux qui les achètent, auprès de l'ANCV, l'Agence nationale pour les chèques vacances, qui sont en fait des clients, en fait, et qui sont dans le secteur privé les comités sociaux et économiques des entreprises. Donc, en fait, ce sont les anciens comités d'entreprise qui ont notamment pour mission de développer une action sociale et culturelle dans l'entreprise. Et dans le cadre de cette action sociale et culturelle, ils achètent et ils distribuent les chèques vacances aux salariés. Ça peut aussi être dans les petites entreprises directement l'employeur, parce qu'il n'y a pas de comité d'entreprise. Et dans la fonction publique, ça peut être, des structures qui sont l'équivalent des comités d'entreprise. Ça s'appelle des comités d'action sociale.
Ok, mais alors le salarié, il cotise pour ses chèques vacances ou pas ?
Alors ça dépend vraiment des cas. En fait, le comité social et économique définit la façon dont il va donner des chèques vacances, distribuer des chèques vacances aux salariés. C'est vraiment la politique du comité social et économique. Donc ça dépend vraiment du comité social et économique. Il y a juste une chose commune qui est qu'il doit y avoir un critère social. C'est-à-dire que ceux qui gagnent moins doivent obtenir une contribution supérieure
au
comité social et économique. Et sinon, alors il y a certains comités sociaux économiques font des dons secs de chèques vacances, c'est-à-dire donnent des chèques vacances intégralement aux salariés, et d'autres pratiquent ce qu'on appelle une participation ou une épargne, c'est-à-dire qu'ils demandent aux salariés de mettre une partie de l'achat et eux abondent en fonction notamment du revenu du salarié.
Et dites-moi, il y a beaucoup de chèques vacances qui sont utilisés chaque année en France ?
Oui, c'est un produit qui est bien connu en fait. Tous les ans, il y a 4,5 millions de bénéficiaires qui utilisent des chèques vacances. Quand on compte l'ensemble de leur famille, parce que ça bénéficie à l'ensemble de la famille, ça fait 11 millions de personnes. Et ça fait à peu près 1,6 milliard d'euros en 2020. Et ça fait en fait 140 millions de chèques vacances qui circulent en France, bon an, mal an.
Et dites-moi, comment ça s'utilise en fait ? Alors, parce que ça se présente comme un chèque, mais comment je l'utilise après ?
C'est un chèque, effectivement, qui porte votre nom en général. Si ce n'est pas le cas, il faut le remplir dans une case à cet effet. Et en fait, on le remet tout simplement aux professionnels du tourisme et des loisirs qui l'acceptent. Donc, tous ne l'acceptent pas. Et voilà, et c'est tout. Donc en fait, ça s'utilise comme un peu comme un billet de banque.
Est-ce que c'est comme un ticket resto ? Est-ce qu'on peut rendre de la monnaie sur un chèque vacances ou pas ?
Non, on ne peut pas rendre de monnaie. La loi l'interdit parce que ce n'est pas de la monnaie, en fait.
Voilà,
C'est vraiment spécifique pour des achats dans le domaine du tourisme et des loisirs.
Quel avantage est-ce qu'on a à payer en chèque vacances, en fait ?
Bah, tout simplement, le chèque vacances, en fait, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que votre employeur vous donne, en réalité, ou vous finance à une grande partie. Alors, l'intérêt du chèque vacances aussi, c'est que c'est un produit qui est fléché sur les vacances. Donc, on connaît, ceux qui le financent connaissent son utilisation. Et c'est un produit social aussi. Ça, c'est une dimension très importante. Les bénéfices tirés de la gestion du chèque vacances sont intégralement investis par la MCV dans, en fait, des aides sociales pour aider les publics fragiles à accéder aux vacances en France. Des jeunes, des seniors, des familles précaires, des personnes handicapées. C'est tout un volet social de la gestion du chèque vacances.
Est-ce qu'on peut les cumuler ?
Tout à fait, on peut les cumuler, on peut en utiliser plusieurs. La seule condition, c'est qu'il n'y a pas de rendu de monnaie. Le prix de la prestation doit être supérieur. On peut tout à fait les cumuler.
Quelle est leur durée de validité ?
Leur durée de validité, c'est à la fin de la deuxième année civile, à compter de la date d'émission. Donc c'est une durée assez longue. Et à la fin de cette durée de validité, on peut les échanger, en fait, contre de nouveaux chèques vacances qui vont porter la date de l'année de l'émission. Et on repart pour 3 ans, en fait.
Donc pas d'inquiétude si j'ai des chèques périmés ?
Non, tous les ans, en fait, il y a une période d'échange. Les bénéficiaires sont bien informés, qui est du 1er au 31 mars, pendant laquelle on peut échanger les chèques vacances périmés.
Est-ce qu'on a un recours si on se les fait voler ?
Alors, si on se les fait voler, c'est un peu comme si on se fait voler de l'argent. C'est-à-dire que le recours, c'est en fait de porter plainte d'une certaine façon. Donc voilà, c'est un peu la limite de l'exercice, mais c'est normal.
Mais comme vous dites, les 3/4 du temps, ils sont nominatifs, donc il y a une vérification d'identité quand on les utilise ?
Ça dépend des prestataires, mais en principe, ce sont des titres nominatifs, effectivement, qui ne peuvent être utilisés que par leurs bénéficiaires.
Eh bien, je vous remercie pour toutes ces réponses. Alain Schmitt, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence nationale pour les chèques vacances. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions et très bon week-end à l'écoute d'RTL. Nous voilà bien, ça n'est pas terminé. On se retrouve dans un instant avec Pierre Nesman qui va nous parler des fleurs d'été, Sonia Esguignan qui va nous parler du fruit ou du légume, tiens, je ne sais pas, de l'été, le melon. A tout de suite.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Nous voilà bien, c'est tous les samedis matins de 9h15 à 10h. Merci pour votre fidélité à cette émission que vous retrouverez à la rentrée sur l'antenne d'RTL. Et maintenant qu'on sait tout sur les chèques vacances, eh bien on va fleurir, si vous le voulez bien, nos balcons. Vous avez plus de chance qu'Alain Schmitt, hein, Pierre Nesman. Hein, parce que lui, on lui avait mis David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Alors qu'un bon Dalida, quand même.
Ça donne envie de partir, effectivement. Mais avant, on va fleurir nos balcons, nos terrasses.
Exactement. Merci d'être avec nous. Vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Dites-moi, Pierre Nesman, je posais la question il y a un instant. Et vous pouvez peut-être me répondre avant que Sonia Esguignan nous rejoigne. Le melon, c'est un fruit ou un légume de l'été ?
Alors, c'est un légume, puisqu'il fait partie de la catégorie des légumes que l'on cultive au potager, mais c'est un légume-fruit. Parce que dans les légumes, il y a plusieurs catégories. Il y a les légumes-fruits, comme les tomates, les melons, les légumes-feuilles, comme la salade, les légumes-graines, comme les petits pois, et les légumes-racines, comme le radis ou la carotte. Donc, c'est effectivement un légume, mais qui fait partie de la catégorie des légumes-fruits.
Très bien, et qu'on peut effectivement manger autant en entrée qu'en dessert, mais ça, on y reviendra avec Sonia Esguignan. Tiens, je peux faire pousser des melons sur mon balcon ?
C'est possible, parce qu'effectivement, ce sont des légumes qui peuvent s'accommoder de la culture en pot. Il faut un pot assez grand, une quarantaine de centimètres, et puis une situation bien ensoleillée. Mais le melon est un légume qui n'est pas facile à cultiver. Il faut le tailler régulièrement, il faut le conduire, l'accompagner. Donc, je préfère conseiller un pied de tomate. Là, on est au moins sûr d'avoir une récolte de légumes garantie. Okay.
Alors, quand il s'agit des fleurs, pour être tout à fait sincère avec vous, si on en parle aujourd'hui, c'est que j'aurais bien voulu vous poser la question en privé. La météo n'a pas été au top hein, ces derniers temps. On a eu du très beau comme on a eu du moins beau cette dernière semaine. Est-ce que s'y mettre maintenant pour fleurir notre bord de fenêtre, notre balcon, notre terrasse, est-ce que ça n'est pas trop tard?
Alors, c'est pas trop tard, mais c'est évident qu'on ne va pas utiliser les mêmes plants que ceux que l'on aurait utilisés il y a 2 mois, par exemple. C'est vrai que lorsqu'on plante des jardinières ou des potées fleuries, on va le faire au mois d'avril-mai. On va trouver dans les jardineries et chez les horticulteurs des jeunes plantes, des plantes que l'on va planter dans des pots. Aujourd'hui, ces plantes, on ne les trouve plus. En revanche, les horticulteurs et dans les jardineries, les horticulteurs ont cultivé ces plants dans des pots, sous les serres, et ils proposent aujourd'hui des plantes beaucoup plus fortes, des plantes matures, adultes, qui vont évidemment pousser, fleurir sur notre balcon, notre bord de fenêtre, comme si on les avait plantées il y a 2 mois. Et on a effectivement un décor qui est tout à fait immédiat.
Il y a certaines fleurs qui fleurissent vite et durablement ?
Pratiquement, elles fleurissent toutes très vite puisqu'on va les acheter. Elles sont en végétation, très souvent en boutons et avec déjà des fleurs. Donc la floraison est totalement immédiate et on va trouver une gamme de plantes qui est très importante. Vous avez par exemple les verveines, les némésias, les bacopa, bidens, bien sûr tous les géraniums très connus, les géraniums retombants, les surfinia et les calibrachoa qui sont des sortes de pétunias.
Oh, j'adore ça.
Ouais. Voilà, sans oublier les impatiens qu'on va utiliser plutôt à l'ombre. Et alors à ces plantes-là, on va ajouter des plantes vivaces, disons, plus estivales, comme les dipladénia, les lantanas, les fuchsias, les sauges arbustives. On va trouver également des goras, des agapanthes, des marguerites d'été, des alstromères. Vous voyez que la liste est extrêmement longue. On a tout un choix, toute une panoplie de plantes pour fleurir l'été.
Alors, dites-moi, c'est intéressant parce que vous nous dites qu'elles sont quasiment fleuries. Certaines, d'ailleurs, sont déjà un petit peu fleuries et en bouton. On est toujours assuré que la plante va s'ouvrir ?
Ah oui, oui, tout à fait. D'accord. À partir du moment que vous avez acheté une plante en bouton avec quelques fleurs épanouies, nuit, ça vous permet de pouvoir choisir la couleur avec précision. Et bien ensuite, vous allez pouvoir, en l'entretenant bien entendu, en l'arrosant, et ça on va le voir, et bien pouvoir la faire vivre longtemps et surtout la faire fleurir longtemps, pratiquement jusqu'à la fin de l'été, voire le tout début de l'automne.
Vous parliez des couleurs, justement. On en trouve encore de toutes les couleurs ?
Ah oui, le choix.
À défaut d'en voir de toutes les couleurs. Ah ah.
Le choix est très très vaste, effectivement. On va trouver toutes sortes de couleurs. Vous voyez, les surfinias, les calibrachoa dont je parlais tout à l'heure. Il y a une palette de couleurs très très importante. Donc vraiment, on va pouvoir faire un choix en fonction de ses goûts, du style de la terrasse et de l'ambiance que l'on a envie de créer. La palette végétale est encore très importante et on va pouvoir vraiment laisser libre cours à ses envies.
Vous parliez des pétunias tout à l'heure. C'est vrai que moi, j'adore mettre des pétunias parce que quand je les arrose le soir, il y a une sorte de parfum qui s'en dégage. Est-ce que toutes les plantes avec des fleurs sont odorantes ?
Effectivement, pas toutes. Les fleurs en général, les fleurs d'été, sont assez peu parfumées, les fleurs que l'on va planter sur les rebords de fenêtres et les balcons. Mais vous avez raison, Flavie, il y a des plantes qui sont particulièrement intéressantes, comme effectivement les pétunias. Et le soir, quand on les arrose ou quand on enlève les fleurs fanées, il y a quelques effluves qui se dégagent. Alors, ce ne sont pas des effluves qui sont souvent dégagées par les fleurs, mais par le feuillage. Et alors, moi, je conseille justement, pour avoir ces fragrances le soir, c'est d'associer à ces floraisons estivales et bien des plantes qui ont un feuillage odorant. Vous avez des lavandes, vous avez l'immortel curry, vous avez des armoises, et puis vous avez aussi toute une gamme de géraniums odorants qui vont avoir des odeurs d'orange, de menthe, de chocolat. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ce sont des odeurs qui vont effectivement se révéler le soir, à la tombée du jour, lorsque vous allez faire vos arrosages ou lorsque vous allez utiliser votre terrasse.
Vous parliez du feuillage, c'est important. Vous savez, en ce moment, on a beaucoup de propositions de plantes. Hein, en fait, il y en a plein les étals. Et parfois, le feuillage est un petit peu abîmé. Qu'est-ce que ça dit de la plante ?
Alors ça, c'est pas très bon signe. C'est justement le conseil que je vais donner à tous les auditeurs. C'est lorsqu'on est dans une jardinerie ou chez un horticulteur, regardez bien, inspectez bien le feuillage. Vous savez, dans une jardinerie, il vaut mieux arriver pour ces achats lorsqu'ils viennent de recevoir des plantes. On est sûr qu'elles sont dans un état sanitaire parfait. Lorsque les plantes ont ensuite été stockées sur des tablettes ou sur des chariots, c'est vrai qu'elles ont manqué de lumière, elles ont peut-être manqué d'eau. Le feuillage jaunit, se dessèche. Donc c'est très important d'inspecter de manière très très précise le feuillage, de regarder bien à l'intérieur des plantes qu'il n'y ait pas de feuilles malades, de feuilles jaunes, de feuilles sèches qui peuvent indiquer des périodes de souffrance de ces végétaux.
Jardinière, pot, suspension, c'est quoi le mieux ?
Tout est possible. Ça va vraiment dépendre de la terrasse et de la configuration de la terrasse. Vous n'avez pas beaucoup de place, on va privilégier des suspensions que l'on va accrocher sur une balustrade, devant une fenêtre ou la porte-fenêtre. Vous avez un peu plus de place, vous pourrez évidemment mettre des potées, des vasques, des bacs éventuellement. Et si vous êtes sur un rebord de fenêtre, eh bien là, ce sera plutôt des jardinières. Et c'est vrai que toutes ces compositions, on peut les trouver prêtes à l'emploi, prêtes à être installées dans les jardineries et chez les horticulteurs actuellement.
Alors, on n'est pas obligé de les rempoter à chaque fois quand on les achète ?
Non, parce que toutes ces plantes ont été déjà plantées, cultivées dans des pots suffisamment grands. Et très souvent, vous verrez, les pots sont décoratifs. Ce sont des pots qui imitent la terre cuite, qui ont des couleurs un peu gaies, etc. Et du coup, ça, le contenant est déjà décoratif. Donc, vous pouvez les placer directement à l'endroit où vous souhaitez les placer. Si évidemment, le pot vous semble un peu petit, que vous avez envie d'en profiter un peu plus longtemps, vous pourrez, alors dans ce cas-là, rempoter ces plantes. Vous allez utiliser un terreau du commerce, un terreau horticole pour balcon et terrasse. Ou sinon, vous pouvez le fabriquer vous-même en mélangeant 2/3 de terreau horticole, 1/3 de terre jardin. Alors moi, j'aime bien ce mélange un peu fait maison parce que la terre de jardin va apporter de la consistance au substrat. Et surtout, pour ceux qui font de l'arrosage, vous avez peut-être remarqué que le substrat, lorsqu'il est sec, a du mal à se réhydrater. Mmh. Et quand on met un peu de terre de jardin, eh bien, on a une meilleure hydratation du substrat et donc les plantes en bénéficient.
Alors, 2/3 de terreau horticole, 1/3 de bonne terre de jardin et on en voiture Simone.
Voilà, c'est parti.
Et là, après, il faut choisir son exposition. On en parlera dans un instant, si vous le voulez bien. Et on parlera de l'entretien, parce que c'est chouette de passer un week-end comme aujourd'hui, peut-être, là, comme ce week-end à planter. Mais après, on part en vacances, peut-être. Donc, comment ça se passe en notre absence ? À tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Nous voilà bien. Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Le melon est un légume-fruit et on peut le cuisiner de bien nombreuses façons. On en parlera dans un instant avec Sonia Esgulian, mais pour l'heure, on fleurit nos balcons.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur.
Nesman, vous êtes paysagiste et vous nous donnez de précieux conseils. Une fois que j'ai acheté mes plantes en pot, l'exposition, ça a son importance.
Absolument, il faut les mettre en pleine lumière. Alors, pleine lumière, ça ne veut pas dire plein soleil. Il faudrait qu'il y ait, idéalement, une demi-journée de soleil pour que les plantes puissent se développer normalement. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'être en plein soleil, plein sud. Mmh. Vous pouvez avoir le soleil le matin, être en exposition est, ou le soleil le soir, être en exposition ouest. Ça marche aussi très bien. Beaucoup de lumière et une demi-journée de soleil au minimum. Si vous êtes complètement à l'ombre, alors on peut utiliser certaines plantes, et je les cite tout à l'heure, ce sont les impatiens. Il y a une très grande diversité de coloris, de formes, etc. Et ça, les impatiens sont des plantes qui vont fleurir malgré une exposition un peu ombragée. C'est le cas également de certains fuchsias.
Ok, donc en fait, effectivement, je vous ai dit une bêtise il y a un instant. Je vous ai dit, une fois qu'on a acheté nos plantes, l'exposition a son importance. Non, je dirais qu'en fait, c'est à chaque exposition correspond sa plante en réalité. Il faut s'en inquiéter avant, c'est au moment de l'achat.
Voilà, c'est ça, exactement. Maintenant, si on a acheté des impatiens et qu'on a un endroit un petit peu ombragé derrière une balustrade ou sous des arbustes, on peut très bien les mettre à cet endroit-là. Mais c'est vrai, vous avez raison, il vaut mieux déjà choisir des plantes, voilà, s'en inquiéter avant de faire son achat, effectivement.
Les plantes fleuries, est-ce que ça se taille ?
Alors non, c'est le grand avantage de ces plantes fleuries, c'est qu'on les laisse pousser librement. Quand vous achetez des plantes qui sont déjà assez fortes, ça veut dire que le prix aussi est un peu élevé aussi, ce sont déjà des belles pièces. Et donc on va se contenter simplement d'enlever les fleurs fanées, car on l'a vu, les fleurs fanées vont produire des graines, épuiser la plante, et donc ça se fait au détriment de la formation de nouveaux boutons floraux. Donc, coupez les fleurs fanées et bien entendu, si vous avez un rameau qui vous gêne, quand vous avez une suspension, vous pouvez le couper. Mais le but du jeu, c'est de les laisser se développer le plus possible.
Grand moment de bonheur, je trouve, lorsque l'on a des plantes, c'est le moment de l'arrosage. Quand il fait beau, quand il fait chaud, on attend que le soleil se couche, en tout cas ne soit plus directement sur la plante et on arrose.
C'est ça, on va faire les arrosages plutôt le soir, à la fraîche, ou le matin. Et bien, pourquoi ? Parce que tout simplement, les plantes vont bénéficier de la fraîcheur de la nuit pour se requinquer avant d'affronter une nouvelle journée chaude et ensoleillée. Donc vous avez tout à fait raison Flavie, l'arrosage se fait le soir et c'est un vrai plaisir parce qu'on a un vrai contact avec ces plantes, on prend le temps de les observer et puis surtout on leur apporte de l'eau qui est un des éléments indispensables pour qu'elles puissent se développer. Il faut savoir que les plantes qui sont cultivées en pot sur un balcon, il faut les arroser pratiquement tous les jours. Donc c'est vraiment une attention quotidienne.
Mais alors dites-moi, on les arrose beaucoup ou pas? On ne sait jamais véritablement. Est-ce qu'il faut que la terre soit toujours humide?
Alors, il faut que la terre soit saturée après l'arrosage. C'est-à-dire que lorsque la terre est sèche avant l'arrosage, vous arrosez une première fois. Vous regardez si la plante et si la soucoupe a suffisamment d'eau. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, vous pouvez faire un deuxième passage. Mais il faut vraiment hydrater intégralement l'ensemble du substrat pour que la plante puisse affronter une nouvelle journée de chaleur. Et donc, c'est intéressant de mettre des soucoupes pour avoir une petite réserve d'eau ou éventuellement d'utiliser des contenants avec une réserve d'eau pour que ces plantes puissent trouver de l'eau dont elles ont besoin pour se développer s'il fait vraiment très très chaud.
Mais alors comment ça se passe si je pars en vacances là ?
Alors là, il faut anticiper un petit peu les choses. Alors, je vais vous donner un conseil de bon sens. Si nous sommes là fin juin, si vous savez que vous allez partir en vacances en juillet, moi je vous conseille de reporter votre achat de décors, de balcons et de terrasses à votre retour de vacances. Parce qu'évidemment, à moins que vous ayez quelqu'un qui puisse s'en occuper, ça va être un petit peu compliqué. Vous risquez d'avoir de grandes déconvenues. En revanche, si vous partez au mois d'août, prenez le temps au mois de juillet de fleurir vos rebords de fenêtres, vos balcons. Vous allez pouvoir aussi, durant tout le mois de juillet, adapter éventuellement un système d'arrosage, ajuster un système d'arrosage automatique par micro-irrigation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le régler de manière à pouvoir partir l'esprit totalement serein à la fin du mois de juillet et être sûr qu'à votre retour, fin août, début septembre, votre balcon sera parfaitement fleuri.
Et dites-moi, ce fameux arrosage automatique, on peut le faire soi-même ou en fait il vaut mieux l'acheter en jardinerie ?
C'est très simple. Alors on achète des kits en jardinerie qui sont des petits programmateurs qu'on va brancher sur un robinet que l'on a sur le balcon ou la terrasse. Et puis ensuite on distribue au niveau de chaque plante des petits tuyaux qui vont alimenter les plantes en eau. Alors vous allez me dire, on n'a pas tous un robinet sur son rebord de fenêtre ou sur son balcon. Alors il existe aujourd'hui, et là les fabricants étaient très malins, des systèmes d'arrosage qui marchent avec le système solaire, par l'énergie solaire, et que l'on va installer à côté d'un contenant que l'on remplit d'eau. Et c'est à partir de ce contenant, avec cette petite diffusion, que cette diffusion va se faire sur les plantes. Donc on n'a pas besoin d'avoir un robinet, il suffit d'avoir un ou deux contenants suffisamment grands pour pouvoir tenir pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Merci beaucoup Pierre Nesman pour toutes ces informations. C'était très précieux et grâce à vous, on aura de beaux balcons, de belles terrasses. On sera tout fleuri. Merci à vous, Pierre. Votre nouveau livre, Mon jardin s'adapte au changement climatique, car ça, c'est une réalité également. Et c'est chez Delachaux et Niestlé. À bientôt, Pierre Nesman. Je vous embrasse.
Merci, Flavie. À bientôt. Au revoir.
Les melons, nous on aime les melons. Le tarascon, beau des gamons.
Les melons d'Aimé Barelli. Bonjour, Sonia Esguillon.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes cuisinière, vous êtes auteure et journaliste et votre page Instagram Sonia Esguillon nous donne toujours envie de grignoter, de manger, de nous régaler. Bon, et le melon, et c'est tout de suite l'été dans notre assiette en fait.
Ah oui, ça y est, on y est là, on y croit.
Il y en a beaucoup des melons ?
Il y a plein de variétés. Alors on connaît surtout le melon de Cavaillon ou le melon des Charentes, bien rond, quelquefois avec la peau qui ressemble un petit peu à de la dentelle. Ouais. Mais il y a aussi des melons un petit peu plus méditerranéens, des melons avec l'écorce toute jaune et puis une chair beaucoup plus vert d'eau, plus rafraîchissante, beaucoup moins sucrée que nos melons de Provence en fait.
D'accord, ok. Et le melon, ça semble être le légume-fruit régime par excellence. C'est calorique ou pas ?
Ça dépend parce qu'il y a certains melons qui sont très sucrés. C'est vrai que plus le melon est sucré, on va dire qu'il est un petit peu plus calorique. Mais quand on, par exemple, on va le préparer, on ne va pas rajouter trop d'éléments. On peut le consommer nature avec en salade. Et quand on le met dans une salade de fruits, on évite vraiment de rajouter du sucre parce que justement, quand le melon est bien mûr, c'est le sucre naturel du fruit qui va faire l'ensemble de la salade de fruits.
Ok, d'accord. Quelle astuce pour bien choisir un melon ? Parce que alors, je vous assure que moi, à part sentir le popotin du melon, la petite queue du melon, là, je ne sais pas le choisir.
Attention, quand on sent, parce qu'il faut effectivement que le melon sente, mais s'il est très très odorant, quelquefois il est trop mûr. Donc en fait, une des astuces qui fonctionne bien, c'est un peu de jouer aux haltères avec le melon, c'est-à-dire qu'il doit être très lourd. Ça, c'est vraiment un indice de qualité. Donc on le soupèse, il est vraiment très lourd. Et puis une autre chose aussi, la peau doit être très souple. C'est mauvais signe quand la peau fait un petit peu dure, un petit peu râpeuse. Ça, c'est pas vraiment un super signe de bonne maturité du melon.
Et sa petite queue ?
Alors, normalement, le petit pédoncule, il doit légèrement craqueler et presque se détacher. Et ça, ça veut aussi dire que le melon est vraiment arrivé à maturité. Donc, c'est le moment de le déguster.
Bon, eh bien, on va se retrouver dans un instant. On va parler du melon. Vous allez nous donner des recettes parce qu'on a l'impression que ça se cuisine toujours de la même façon. Et puis, on se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Nous voilà bien. Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous, nous voilà bien aujourd'hui. Il s'intéresse aux légumes fruits. Alors maintenant que je sais que ça s'appelle comme ça, je ne vais cesser de le répéter. Le légume fruit star de l'été, j'ai nommé le melon. Merci Marc Arian, on verra, on y réfléchira. Sonia Esculian, on parle du melon avec vous. Alors on a compris qu'il fallait, pour le choisir, qu'il n'ait pas la peau trop ferme, trop dure. On a compris qu'il fallait qu'il soit lourd et qu'il ait son petit pédoncule un petit peu craquelé. Voilà, et qu'il sente bon, mais pas trop fort non plus, parce que sinon ça veut dire qu'il est trop mûr. Donc là, après, j'ai mon melon. Vous savez que je ne sais pas comment le conserver en fait. Moi, je ne sais jamais s'il faut que je le mette au frais ou s'il faut que je le mette à température ambiante.
Surtout pas au frais, parce que alors, le frigo est totalement sinistré avec l'odeur du melon. C'est-à-dire que si vous laissez du beurre ou une autre préparation dans le réfrigérateur, ça va sentir le melon. Alors vous savez, on désodorise le frigo en mettant un bol de lait, et le lait va capter les odeurs. Donc déjà, évitez totalement. Ah ben ça, c'est magique. Quand on a le frigo qui sent, par exemple, si on a eu la malheureuse idée de mettre un melon surtout ouvert dans le frigo, après, c'est vraiment dur de se débarrasser de cette odeur de melon. Donc on met un bol de lait et évidemment on ne va pas se servir du lait, mais le lait va capter toutes les odeurs un peu tenaces du réfrigérateur.
Et ça vaut pour toutes les odeurs, un bon maroilles.
Il
faut penser au verre de lait, quoi.
Voilà, on peut penser au verre de lait pour des odeurs. Alors le melon il reste à l'extérieur. Ce qui est important, c'est, vous savez, l'été, ce qui est top, c'est d'acheter une sorte de petite cloche avec une...
Alors,
ça, c'est génial, ça. C'est l'accessoire indispensable.
Parce que c'est très étonnant. Alors ça, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a plein de petits moucherons. Vous savez, quand on a des légumes, parfois, on a des coupes de fruits ou de légumes qu'on laisse à température ambiante. Et on a des petits nuages de moucherons. C'est normal, ça ?
Ah ben oui, ça c'est la nature, donc c'est bien, c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas consommer les légumes comme ça, ou les fruits, et que ça va les abîmer beaucoup plus rapidement. Donc pour les protéger, il y a deux petites astuces. Il y a soit cette petite cloche, moi j'ai acheté une petite cage, on va dire, c'était pour faire sécher les fromages. Mais en fait, c'est génial, parce qu'il y a deux ou trois petites étagères, et en fait on pose, par exemple en ce moment il y a les tomates, j'ai quelques aubergines, et là c'est top, parce que en fait j'ai jamais de petites bêtes à l'intérieur.
Mais il ne fait pas trop chaud pour les conserver dans ce cas-là, les fruits et les légumes, par cette température, quand il fait très chaud ?
Alors, comme on le dit à chaque fois quand on papote le marché, je fais le marché, je garde les légumes pas plus de 2 jours. C'est sûr que ce n'est pas possible de les garder plus longuement, parce que là, il fait vraiment très chaud, il fait même orageux, il fait lourd, et donc ça abîme vraiment les légumes. Mais je crois que le réfrigérateur, ça les abîme encore plus.
Donc à température ambiante.
On est un peu coincé entre les deux, mais c'est quand même mieux de les laisser à l'extérieur.
Donc ça veut dire que mon melon, il faut que je le consomme dans les jours qui suivent évidemment l'achat. Alors, les recettes avec le melon, elles me semblent assez limitées.
Pas du tout. Mais c'est parce qu'on a toujours l'impression que le melon, il est obligé d'être accoquiné avec cette pauvre tranche de jambon cru, ou alors en salade en entrée. En fait, que c'est pas du tout obligatoire. Hein. On peut tout à fait le marier à d'autres choses, notamment à des poissons. Et surtout, vous le disiez tout à l'heure, c'est un légume à la base. Dans l'Égypte ancienne, les Égyptiens le consommaient essentiellement en légumes, c'est-à-dire cuit et vinaigré. Je vous raconterai une petite recette après avec du vinaigre. Mais je vous conseille, par exemple, de couper couper le melon, de l'éplucher, de couper des tranches très épaisses et de les faire griller très très rapidement, parce que là c'est important, c'est pas quelque chose qui va cuire longtemps dans une casserole. On va mettre dans la poêle pratiquement pas de gras, quelques gouttes d'huile d'olive, et quand la poêle est très chaude, on va faire saisir ces belles tranches de melon, et ça par exemple, on va le servir avec de la feta. Vous mettez quelques feuilles de menthe, un filet d'huile, franchement, ça change tout. C'est le goût du melon qui est un petit peu grillé et l'intérieur qui va rester très moelleux. C'est top, il faut découvrir le melon cuit.
Et dites-moi, avec le poisson, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, par exemple, moi je fais, vous savez que je ne gaspille rien, je ne jette rien. La peau du melon, c'est absolument formidable parce que vous pensiez que c'était que pour le compost. Mais en fait, on va éplucher la peau. On va couper l'écorce du melon, ouais, qui est quand même un peu épaisse, en petits bâtonnets, un petit peu comme les orangettes quand on fait les orangettes au mois de décembre. Donc on coupe la peau en petits bâtonnets et on va faire en fait un mélange pour faire des petits pickles. On va faire un mélange. Alors par exemple, pour l'équivalent d'une écorce d'un seul melon, il vous faut à peu près 100 grammes d'eau, 250 grammes de vinaigre. C'est plus facile de le dire en grammes plutôt qu'en centilitres.
D'accord.
Donc 100 grammes d'eau, 250 grammes de vinaigre. Vous mettez les épices que vous avez sous la main. Moi, j'aime bien mettre une petite graine de cardamome, quelques baies roses et puis une cuillère à café de gros sel. On fait chauffer ça et on verse cette préparation bien chaude sur les écorces de melon dans un bocal. On ferme et on patiente 2 semaines. Au bout de 2 semaines, vous avez ces petits pickles qui ont un peu la texture d'un cornichon. Et moi, je vais faire des tartares. En fait, ça va être très, très sympa. On va faire des tartares de poisson. Ça peut être du thon. Ça peut être des tartares de dorade. C'est très sympa parce que ces petits filaments, ils vont avoir ce goût de melon avec une texture un peu plus ferme. Et franchement, je vous assure, vous allez surprendre vos invités.
Eh bien, je n'hésiterai pas. Et je pensais à un truc quand je vous écoutais, le granité de melon. Vous savez comment on fait ça ? J'ai goûté ça dernièrement, je trouve ça délicieux. On m'a dit que c'était très simple.
Alors, c'est extrêmement simple. On prend du melon. Alors, surtout quand, par exemple, vous vous êtes trompé quand vous avez acheté un melon, il est limite un peu trop mûr. Franchement, le découper en tranches, ça ne va pas être une bonne idée. Donc là, eh bien, on va prendre la chair du melon. On va la mixer avec un petit peu de sucre glace et un petit peu d'eau. En fait, ça fait comme un petit sirop.
D'accord.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le verser, cette préparation, dans un petit plat qu'on va mettre au réfrigérateur. Alors ça, c'est si on n'a pas de turbine à glace. C'est un truc tout simple. On mixe, on met au congélateur. Ça fait une couche, on va dire, de 1 à 2 cm. Au bout d'une heure ou deux, ça commence à prendre. On prend une fourchette, on va gratouiller. Et ça va faire justement ces espèces de petites paillettes là, du granité. C'est pas complètement pris. On remet un petit peu au congélateur et on gratouille une deuxième fois. Et après, en fait, on va avoir ce petit granité qu'on va pouvoir disposer dans des verres. Ça fond très vite, c'est super pour les petites soirées d'été, et c'est rafraîchissant, c'est délicieux, et on peut le parfumer si on veut, on peut ajouter le melon, ça se marie avec plein de choses. Avec, par exemple, je fais une salade de copeaux de melon, parce que c'est bien aussi de couper le melon différemment. Souvent, on coupe le melon en gros quartiers ou en gros morceaux. Moi, je vous conseille d'éplucher le melon, et avec un épluche-légumes, vous faites des copeaux. Et je fais une salade de fraises et de melon, dans laquelle je rajoute une petite lichette d'amaretto. Bon, il va doucement sur l'amaretto et ça fait une petite note d'amande amère. C'est extrêmement bon, on sert ça très frais. Et les pétales de melon, je trouve que ça change parce qu'on n'a pas l'habitude. Ça change un petit peu aussi le goût et la perception qu'on a de ce fruit. Et c'est vraiment top.
Eh bien, je vous remercie parce que c'était super appétissant, Sonia Esgulian. Donc, on sait quoi faire ce week-end, comme à chaque fois qu'on vous a dans cette émission. Je rappelle donc qu'on peut retrouver ces recettes sur votre page Instagram, sur notre page également, sur nos réseaux sociaux. Et puis, la sortie de votre nouveau livre, Ma petite cuisine potagère, c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Coucou Sonia Esgulian.
Merci Flavie.
À bientôt sur l'antenne d'RTL. Merci Sonia. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. C'est déjà la fin de Nous voilà bien. Vous n'avez pas tout retenu? Eh bien, rendez-vous sur l'application RTL ou sur Radio Player France pour le replay. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour la dernière semaine dont on est fait pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine, de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous. Passez un bon week-end à l'écoute d'RTL. Bien entendu, je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.